Bonjour.
Bonjour.
Avec Nina Capomoudali. Morgane Cadignan.
Bonjour.
Laurence Mendel. Jérémy Crécville.
Bonne année.
Tanguy Bastureau. Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Pour accueillir Monsieur David Franquino. David Franquino, c'est avec numéro 2, son nouveau roman publié chez Gallimard.
Pas
qui
le deuxième.
Est, qui raconte. Pardon ?
C'est pas le deuxième.
Non, ça c'est sûr. Mais toujours avec autant de bonheur. Et sa force d'ailleurs, c'est qu'il part dans des styles de narration toujours différents.
Quand il fasse un choix.
Quand il écrit. Et c'est toujours bien. C'est intelligent, c'est drôle, c'est émouvant. Et là, le point de départ, ça a déjà beaucoup
super
été
idée,
raconté.
Super idée.
Un casting avec des milliers d'enfants. Qui va jouer le rôle d'Harry Potter? Il reste deux enfants. Daniel Radcliffe est choisi et il raconte l'histoire de l'autre, du numéro 2 dans le casting.
Martin.
C'est génial. Oui, c'est vrai. Mets un peu d'accent quand tu dis comme ça, parce que ça, on dit Martin va à la plage, Martin va à la montagne.
Il y en a eu plus que deux aussi.
Martin ou Martin.
D'accord, ok. On commence?
Allez, on y va. Qui donc chante?
Il y a tant de femmes dans
Tanguy. Oui.
Tonton David.
Yep.
Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est tellement long.
On l'entend plus beaucoup, c'est
un Tonton.
Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est tellement long.
Tonton David avec ma number one, si vous cherchez le thème de ce blind test.
C'est Ricky Martin, c'est une autre.
On passait au palante, Maria.
Oui, Jérémy.
Allemand, LBR.
Latin.
Qu'est-ce qu'il devient? Il n'a plus de nouvelles.
Et il a compté jusqu'à 8.
Il est comédien,
c'est vrai?
Il jouait dans Versace.
Ah ouais?
C'est l'amant vers cette
chanson. Ah ouais?
Non mais tu blagues?
Non, c'est vrai.
Non mais quand je dis tu blagues, c'est pas le fait qu'il l'ait joué, c'est le fait que tu aies vu Versace. C'est là, je me demande si tu blagues.
C'est pas drôle du tout, Nadine.
Vous chantez, ils ont les deux là.
Qui chante ça?
Jérémy, c'est pas du Indochine ça?
Non.
Ah ouais, je vois ce que tu veux dire.
Leila Kyo?
Non.
Est-ce qu'elle est grosse cette alliance?
T'appelles ça alliance, toi?
Et encore, t'as pas vu sa bite.
Mais, ça Florence, va, mais Florence,
elle a tenté un titre
Florence,
de chanson.
Ton micro est ouvert. Ça va pas.
Tanguy est navré.
Et moi donc,
c'est chanson française.
Surpris, je sais pas.
C'est français, monsieur, oui.
Titre.
C'est pas Kyo, ça.
Non.
Non, tu l'as déjà tenté.
Ouais. Florence, Luc.
Non. C'est pas rock.
On a grandi comme les
Florence, 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 Florence. Blumbal.
Non.
PNL.
Oui, PNL.
Arrête de faire ça quand tu donnes une bonne réponse et de noter des trucs sur ta feuille. C'est condescendant.
Ça s'appelle du mépris, oui.
Petit clin d'œil, ce titre, il n'y a pas de number, mais par contre, il y a deux dans le titre, et en l'occurrence, deux frères. Petit clin d'œil à Stéphane Fuenquinos, évidemment, parce que nous les avions reçus ensemble pour la réalisation de leur film.
Ça, c'est pas Indochine. Ah, c'est pour Tanguy.
Ah ouais, Tanguy, t'as pas le droit.
Français?
Non.
Vieux?
Oui.
Oui, oui, Tanguy.
Je vous déteste.
Il veut pas la dire.
Énorme tube.
Non.
Tu connais pas ça?
Non.
Attends.
C'est David Bowie?
C'est dans ma playlist.
Peut-être que les autres.
Déjà, c'est
non,
pas David.
Non, mais si là vous avez pas reconnu,
c'est
pas
David Bowie en aigu?
Non.
Jackson Brown?
Florence, ZZ Top.
Non.
Arrête avec ça. Bah oui.
C'est pas des frères, les hésitants.
On connaît cette voix en revanche.
Florence, les Bee Gees.
Non.
Non, c'est pas Bowie.
Écoute, mais ça c'est bien, c'est pas possible.
Les Beach Boys.
Simon et Garfunkel.
Ils avaient fait Do
en
It
cas,
Again.
C'est bien.
Ils avaient fait Do It Again, c'est génial.
Celui-là, je connaissais Do It Again, mais j'ai plus le.
Ils avaient fait Do It Again aussi. Un duo avec Donald Fagen. Stilida.
Allez, un point pour Nagui. C'est le premier de la saison, Nagui.
J'ai envie de pleurer en te regardant, là, Tanguy. Franchement, je l'ai fait pour toi, celui-là.
Mais c'est gentil.
Il met trop d'espoir.
Mais il faut pas.
Mais voilà.
Écoute.
Il faut pas projeter trop de choses.
C'est pas de la bonne zig,
c'est vrai que c'est
ah, c'est génial. Qui chante ça?
Jérémy, c'est un piano, ça.
C'est bien, mais je demande qui chante.
Ah,
ça aussi. Non.
Oh là là, c'est encore un truc pas possible.
Florence, Frédéric Goldman-Jones.
Morgan, Phil Collins.
Elton John.
C'est un anglais. Non.
Allez,
James
McCartney.
Blunt.
Non.
McCartney.
Écoutez la voix.
C'est Elton. C'est number two.
Ah oui, number two, il le dit.
Florence, James Groban.
Non,
je pense à ça.
Il avait fait un titre qui s'appelait
Daniel Robbie Williams.
Is She Really Gone Out With Him? Non. Il est passé par différents états. Il a fait Night and Day aussi. Il a été punk rock.
Puis c'est après, pas Joe Jackson.
Limite jazz, pardon.
Joe Jackson.
Joli.
Je vais souffler.
Exactement.
Il est revenu. Il
Joe
est
Jackson. Revenu. En fait, t'es meilleur au Time's Up que au
Oui, oui.
Qui chante ça?
Encore un anglophone. C'est calme.
Daniel. If you see tous.
Non, c'est Jean, oui.
Florence, Fine and Blonde.
Non.
C'est génial.
Patti Smith, non.
Oui, c'est Lina Hagen.
Florence, celle qui commence par un K, là, Kate Bush.
Non. C'est vrai que la voix est proche.
George Bush.
Lucky Number One.
Florence. Cindy Lauper.
Blondie.
Non. Vous connaissez pas ça?
Non. Ah, non.
C'était un énorme.
Juliette Lewis.
Attends, on est de plus en plus mauvais ou c'est
non, 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 c'est peut-être que là je suis allé dans un truc un peu pointu.
Les Smiths. Barbara.
Énorme tube.
John Jett.
C'est bien en tout cas.
Bah, c'est génial. Elle s'appelait Lene Lovitch.
Ah, mais oui, bien sûr.
Et c'est pour moi, c'était un tube.
J'ai
bien, j'ai que c'était pas un tube.
Elle fait pas du tennis.
Non, ok, d'accord. Okay, bon, ok, d'accord. C'était un tube chez moi, dans ma chambre. Je suis désolé.
C'était un tube dans ma chambre. Ouais.
Tu arrêtes avec ça.
Mais j'ai rien dit.
Oui, mais c'est pire.
L'expression.
C'est pire.
Beaucoup de flûte.
Ouais, non, j'avoue que c'est la première fois, mais c'est assez plaisant.
Ouais.
Pas au point de le laisser 3 minutes.
Bon, ok, d'accord. Ok. Alors tout va se jouer maintenant pour l'instant. Okay. Il y a un point pour Tanguy, un point pour Organe, un point pour Jérémy. Et ben alors.
Bah, je sais.
J'ai 2 points, Matt Joe Jackson. Ouais,
ouais. C'est vrai, t'as 2 points. Pardon, tu as 2 points. Il y a soit numéro, soit 2 dans le titre.
Une pandémie de niveau national.
Oui, mais oui, c'est Trucmuche. Mais oui.
C'est Pierre-Paul Jacques.
Oshi.
C'est pas pour moi là.
Gims?
Non, c'est... non, c'est pas Gims.
C'est vieux?
Non,
non, non, c'est pas Youssoupha?
Non,
Soprano.
Val. Nino?
Val?
Non. Jul? Non.
Pas Jul?
Barbara?
Ah, mais attends,
Gims?
Raphaël? C'est Alice. Carice.
Jean-Paul en français?
Oui. C'est un peu ça.
Jean-Paul?
Ouais.
J'ai plus, c'est pas Carice?
Non,
non.
Ok, personne ne trouve.
Non, non, c'est trop compliqué.
C'était Kinvé.
Ah,
c'est vrai. Victoire de Tanguy, alors bravo Tanguy.
Victoire de Tanguy Pastureau, félicitations Tanguy. Félicitations et merci d'accueillir David Fuenquino.
France Inter, la bande originale.
Je suis là, Daniel.
Ah, bonjour.
Avec
bonjour. Mais de rajeunissez.
On est ravis et toujours fiers de vous accueillir, David Fuenquino. C'est tellement j'ai aimé, adoré ce numéro 2. Déjà, le point de départ, c'est ce pitch de dire qu'est-il arrivé à celui qui aurait pu être Harry Potter et qui finalement au
c'est
dernier s'est
passé à ça.
Passé à ça. Il en restait 2 et finalement il est le numéro 2 et qu'est.
Il pas s'intéresser au gagnant quoi. C'est
qu'a-t-il,
ouais,
qu'a-t-il fait
c'est
de sa vie.
L'idée était tellement bonne, j'ai pas voulu être déçu, j'ai pas lu le livre.
et c'est exactement.
Très bonne stratégie.
C'est exactement ce que j'allais dire. Je me suis dit l'idée est super bonne, mais. Qu'en faire pendant 200 ouais. ou 300 pages.
Et c'est
génial parce que c'est plein de rebondissements. Il y a même un petit pas de en retrait sur tous les autres entre guillemets dans leur vie. Et s'intéresser pas uniquement à celui qui est dans la lumière. Comment est venue l'idée en fait?
Bah déjà le point de départ c'est exactement ça l'histoire. J'étais en train de regarder un film d'Harry Potter et je me suis dit tiens je me balade sur la page Wikipédia pour un peu avoir des voilà comme d'habitude pour avoir des petites infos. Et là, je découvre une interview de la directrice de casting qui raconte effectivement qu'à l'époque, ça a été colossal. Ils ont auditionné des centaines d'acteurs. Faut imaginer, voilà, le film s'annonçait déjà comme une énorme machine mondiale. Mais il fallait trouver l'interprète qui serait Harry Potter. Et à la fin du processus, il en restait plus que 2. Et
c'est ça
elle
qui est
dit,
atroce. C'est
elle
atroce.
Dit, déjà, c'est, on imagine tout de suite l'autre, mais en plus, elle rajoute cette phrase incroyable. On a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus.
Ouais, bah oui.
Donc,
ouais.
Je sais pas vous, mais moi, immédiatement, j'ai été saisi par l'image de l'autre, son destin. Je me suis dit, mais comment on surmonte ça? Déjà, un tel échec. arriver si proche d'une vie aussi incroyable, c'est difficile. Mais en plus, d'avoir le succès de l'autre qui vous saute au visage en permanence. C'est-à-dire que c'est impossible depuis 20 ans de faire 2 mètres dans la rue ou de passer une journée sans être confronté à Harry Potter.
D'autant que c'est pire que de perdre une finale de Coupe du Monde de football. Parce qu'on
peut dire,
ça va se reproduire. Or là, c'est once in a lifetime.
C'est le destin. En plus, bon, dans mon livre,
moi, je ne l'ai pas si mal vécu.
Ah oui, d'avoir fait le casting
de Tintin. Le Tintin, t'as pas été pris pour le sosie de Johnny Tintin.
C'est vrai qu'on parle, si on parle de foot, moi je suis souvent en train de penser à celui qui perd. Là, il y avait Miss France il n'y a pas très longtemps. On regarde tout de suite la première Dauphine. Il y a quelque chose d'assez effrayant de passer au rivage du succès. Et de toute façon, on a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, nous barre la route.
Et finalement, la situation de celui qui arrive en deuxième position est plus angoissante que celui qui arrive en 250e position.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est exactement ça. En fait, on vit avec en permanence la vie potentielle qu'on aurait pu avoir. Ouais. De toute façon, dans notre quotidien, on fait des choix tout le temps. On peut fantasmer sur cette idée de se dire quelle vie j'aurais eu si ça avait été différent ici ou là. Mais là, vraiment, la sensation de l'autre vie est extrêmement prégnante.
Alors justement, le problème qui vient blesser, parce qu'il y a une véritable blessure, presque physique, mais en tout cas sûrement psychologique, ce qui vient blesser Martin Hill, hein, c'est son nom.
Ouais.
Ce qui vient le blesser, c'est qu'il y a tellement cru qu'il s'y voyait déjà. Et c'est peut-être là aussi que le bas blesse, parce que on peut faire des castings, faire des essais, postuler à des postes, faire des compétitions, ne pas les gagner, et puis soit s'en remettre, soit continuer de travailler, dire je vais passer à autre chose et je vais aller ailleurs. Mais là, il avait fait un transfert il s'y voyait quoi.
Il y a cru, et puis tout le monde lui a dit que c'était potentiellement lui. Je parle beaucoup, c'est un livre sur le hasard. On dit souvent que le hasard fait bien les choses, mais il peut tout autant mal les faire. C'est vrai qu'il n'a rien demandé.
Cette phrase est écrite telle qu'elle.
C'est vrai qu'il n'a rien demandé. Il rencontre le producteur par hasard, qui voit la ressemblance avec le personnage. Il passe les essais, ça se passe très bien. Et il se retrouve finalement en finale, jusqu'au moment où le destin va récupérer Daniel Radcliffe, dont les parents ne voulait pas qu'il fasse Harry Potter au début.
Parce que les études d'abord.
Oui, et puis c'était 7 films, c'était 10 ans. Pour un enfant, c'est un vrai choix.
Quelle est la part de votre fiction et la part romancée versus la part d'information réelle, j'imagine un peu plus étayée que simplement Wikipédia, mais quand même, parce qu'il y a...
On trouve plein de choses en ligne sur Harry Potter.
Il y a de véritables interviews, il y a des documents, il y avait de véritables essais aussi.
Alors complètement. Alors, toute cette histoire est vraie que le casting, ils ont hésité vraiment entre deux acteurs à la fin. Après, le parcours de mon personnage, de cet autre acteur, est en grande partie fictionnel, mais il y a toute une partie réelle dans mon livre.
Son nom est faux.
Oui, son nom est faux. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie réelle dans mon livre, c'est-à-dire que je raconte aussi toute l'histoire de J.K. Rowling, tout le casting de Harry Potter, et ça, je trouvais ça absolument fascinant. Il faut imaginer que cette femme de 25 ans, elle a l'air tout droit sortie d'un film de Ken Loach. Elle vit dans la misère, dette sociale. Elle vit seule avec sa fille, puisque c'est une femme battue, elle a dû quitter son conjoint, sa mère est morte après plusieurs années d'agonie avec la sclérose en plaques. Enfin vraiment, on est dans la vie de désespoir à l'état pur, et il faut imaginer que cette femme, 3 ans après, va devenir la femme la plus connue au monde, l'écrivain la plus connue au monde, riche du royaume.
Après avoir essayé des échecs et des refus de publication de son roman.
Ouais, ça c'est incroyable, je raconte toute l'histoire. C'est vrai que moi je connaissais pas très bien en fait J.K. Rowling et Harry Potter. C'est une histoire assez magique, c'est vraiment un conte de fées, parce qu'elle a été refusée au départ par tous les éditeurs, et puis Bloomsbury, l'édition anglaise, décide de faire un secteur jeunesse, et là c'est grâce à la fille du directeur financier, Alice Newton, qui a 8 ans, qui lit le début, qui dit à son père « je veux à tout prix connaître la suite », et
c'était une épreuve, parce qu'elle ne le lit pas spontanément, c'est son père qui lui dit « tiens, tu me lis le début, tu me dis ce que t'en penses ».
Oui, et puis il y a un truc qui est assez dingue, c'est qu'il faut imaginer Harry Potter avant Harry Potter. Maintenant, c'est devenu tellement colossal, et ça fait partie de notre vie collective, mais il faut imaginer ce que c'est de tomber sur ce texte, avec Poudlard, avec toutes ces histoires de magiciens, avant d'imaginer le succès.
Et puis avec des pavés, parce que c'était pas des livres pour enfants de quelques dizaines de pages.
Ce qui est assez génial, c'est que c'est pas, d'ailleurs je pense que le succès vient beaucoup de là, c'est pas du tout que pour les enfants. Non. C'est vrai que l'histoire de Harry Potter, en fait moi j'ai relu le tome 1 évidemment pour écrire mon livre, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est maltraité, qui vit une situation difficile,
orphelin,
et à un moment donné quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit vous êtes extraordinaire, vous avez des pouvoirs, vous êtes une star, tout le monde vous attend dans un autre, dans un monde parallèle. Finalement, c'est, on rêve tous de ça. Enfant ou adulte, que quelqu'un vienne vous voir et vous dise,
il y en a plein qui sont mangés.
Nagui, vous êtes extraordinaire.
Vous avez des pouvoirs. Si seulement vous pouvez venir me le dire.
Il y en a plein qui se sont mangés la voix 9 3 quarts, du coup, avec des chariots.
Oui, il y a plein de gens qui ont essayé après. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'elle a eu, J.K. Rowling, elle a eu l'inspiration, c'est ce qu'elle dit, dans un train entre Manchester et Londres. Et donc, il y a plein d'apprentis écrivains qui prennent le même train en se disant, tiens, peut-être qu'on va être foudroyé aussi par l'inspiration.
Florence.
Moi, je suis une grande fan d'Harry Potter. J'ai commencé à lire ça quand j'avais 11 ans. Et c'est marrant votre bouquin, parce que dans le livre Harry Potter, justement, bon, lui est appelé à un destin exceptionnel, mais ça se joue aussi sur pas grand-chose, parce qu'on apprend dans l'histoire qu'il y a un autre garçon sur qui le même destin aurait pu tomber, et c'est le grand méchant qui finalement choisit, que ce sera, enfin, désigne Harry Potter comme étant l'élu de la prophétie. Donc c'est vraiment pas loin de ce que vous avez écrit.
Et puis d'ailleurs, le parallèle va continuer d'ailleurs dans la vie de Martin Hill, puisque cette situation d'orphelin, cette situation d'être battu, harcelé, il va presque se demander si toute sa vie ne devient pas un énorme échec, au-delà de simplement un échec de casting, si il voit des signaux partout.
Ouais, c'est une malédiction.
D'être en parallèle, le sous Harry Potter, entre guillemets, mais en subissant les mêmes drames.
Oui, il va carrément se demander si finalement il n'a pas été choisi pour être Harry Potter dans la fiction, mais est-ce qu'il n'est pas en train de devenir Harry Potter dans la vraie vie. Et finalement, je trouve que c'était assez, assez symptomatique de notre époque où de plus en plus on voit bien un mélange entre la réalité et la fiction. Parfois on ne sait plus si on vit vraiment les choses ou si on les vit par procuration avec les réseaux sociaux. Et il a le sentiment, lui, d'être frappé par cette malédiction d'être Harry Potter.
Mais cette question de pourquoi lui et pas l'autre, c'est une question même limite que vous êtes un jour posée avec pourquoi moi et pas un autre auteur. C'est une question qu'on pourrait se poser nous tous autour de cette table. Pourquoi sommes-nous là
Complètement. Pour moi, c'est vraiment la première partie du livre Harry Potter. Et après, j'ai essayé de travailler sur cette idée de ne pas avoir été choisi, de comment surmonter l'échec. On est tous confrontés à un moment donné à la situation de ne pas avoir été choisi en amour, dans la vie professionnelle, dans le travail, d'être numéro 2.
Ça peut arriver de temps en temps dans une vie, sauf que là c'est toute la vie entière qui bascule. C'est pas un échec, c'est l'échec de sa vie et il cherche une renaissance.
Oui, et puis il voit tout le temps la vie de l'autre. Il est confronté, en fait, on n'est jamais confronté au scénario qu'on vit pas. Donc lui, il a le film de la vie qu'il n'a pas pu vivre. Et puis il y avait un storytelling incroyable où les enfants qui jouaient Harry Potter avaient une vie géniale, s'amusaient, vivaient, voyageaient dans le monde entier. Donc ça, c'est assez effrayant.
Rencontrer l'amour, la fortune.
Au fond, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de se dire que il y a des choses qu'on peut comprendre de nos échecs. Les échecs sont sûrement même nécessaires pour pouvoir avancer et pour pouvoir progresser. Et il y a aussi une grande difficulté au succès. Et c'est vrai qu'il va se rendre compte que la vie de Daniel Radcliffe, aussi folle, aussi particulière soit-elle, comporte aussi beaucoup de complexité.
C'est pas parfaite.
Ouais. Et puis, il y a une sorte d'abandon, et vous dites d'ailleurs, pardon si c'est pas du mot à mot, mais globalement, c'est une solution de facilité d'abandonner. Il y a que les faibles, entre guillemets, qui abandonnent, puisque quand il ne veut pas même continuer d'éventuellement être acteur ou être comédien, il y a ce côté...
Tel échec, il y a certains moments où un échec vous dégoûte définitivement d'une situation. Mais ça,
c'est une question de caractère, il y a des échecs qui motivent aussi.
Oui, mais
aussi.
Parfois, quand on est vraiment... Il y a plein de gens qui peuvent abandonner une vocation, ou en tout cas estimer que le dégoût est trop violent d'avoir été rejeté d'une manière si forte. C'est vrai que c'est très difficile ce qu'il vit. Et même le producteur lui dit, mais je te trouverai d'autres rôles, j'essaierai
d'aider.
Il ne veut plus jamais entendre parler de cinéma.
Même l'histoire de ce producteur et la manière dont
il
obtient l'accord de...
C'est génial ça.
Alors J.K. Rowling, c'était vraiment pour effacer la féminité de l'auteur.
Oui, c'est l'éditeur, elle s'appelle John Rowling, et c'est vrai qu'ils ont changé.
Elle a rajouté J.K. Rowling. Kathleen, ouais c'est ça.
Voilà, c'est ça, pour pouvoir, d'abord ça fait assez mystérieux, J.K. Rowling, et puis pour pas que ça fasse un livre pour enfants trop féminin. Voilà, c'est pour ça, c'est ce que disait en tout cas l'éditeur.
C'est féminin, donc c'est pour enfants.
Joanne Rowling. Et donc, après, c'était pas son choix de s'appeler J.K. Rowling, mais je pense que.
Il faut l'autorisation, d'ailleurs, de J.K. Rowling et de la marque
Harry Potter. Alors, ça a été assez. D'ailleurs, mon livre au début est non autorisé par J.K. Rowling. C'est marqué au début du livre.
Il paraît que le service juridique de Gallimard qui a beaucoup travaillé.
Ça a été assez d'abord, et c'est super que Gallimard ait fait ça parce que J.K. Rowling est aussi édité chez Gallimard.
Et d'ailleurs, nous recevrons tout à l'heure J.K. Rowling. Parce que,
l'éditrice jeunesse.
Exact.
Et donc, ils ont été incroyables parce que, en même temps, mon livre est extrêmement bienveillant. Mais tout ce qui tourne autour d'Harry Potter, faut savoir que c'est un état Harry Potter, c'est tellement énorme.
Ça devient du marketing.
Donc il y a forcément des avocats, un service juridique.
C'est comme travailler avec Disney, quoi. C'est des contrats
exactement.
Énormes.
Exactement. Ouais, et ça, Warner Bros, c'est pareil. C'est les films, c'est toute une franchise. On peut pas faire n'importe quoi avec.
Mais ce qui veut dire
après,
que
c'est la liberté du romancier.
Ce que j'allais dire, vous êtes hors la loi ou au contraire libre?
Non, pas du tout. Moi, j'ai écrit une lettre d'abord. En travaillant sur mon livre, c'est ce que je racontais tout à l'heure, j'ai découvert l'histoire incroyable de J.K. Rowling. Elle est absolument fascinante.
Y compris l'État parisienne.
Oui, donc elle a vécu effectivement à un moment donné en France, mais je trouve ça absolument passionnant. J'ai été émerveillé par son imagination. J'ai lu les livres, ce que j'avais pas fait avant. Donc c'est un livre qui est extrêmement aussi bienveillant
C'est un personnage de roman.
C'est vrai
totalement.
Que j'ai beaucoup de retours là. Les gens découvrent son histoire et c'est totalement fou de voir à quel point à un moment donné la grâce ou la magie s'abat sur un destin.
En tout cas, c'est une réussite. Bravo. Je disais tout à l'heure avant votre arrivée à ce micro que chaque roman signé David Fuenquino, c'est un exercice littéraire aussi, est un angle, une autre manière. C'est pas simplement raconter des histoires, il y a aussi la manière avec laquelle vous le faites, et c'est un bonheur de vous lire, et c'est une réussite vraiment. Ah ouais, c'est un carton que l'on vous souhaite.
Si humainement vous étiez à la hauteur,
j'essaye de progresser, Daniel. À chaque émission, vous me dites ça,
mais on y arrive.
Je suis de mieux en mieux, non?
Et vous avez une marge.
C'est pour ça, dès que j'arrive, je dis d'abord bonjour à Daniel.
Il y en a une autre qui vous aime pas ici. C'est Morgane Gagnon.
Ah. Je sais.
David Fuenquino, je vous aime pas, mais dis donc, ça commence à aller là. Non, mais il suffit. Deux auteurs la même semaine de la rentrée, mais vous voulez nous tuer ou quoi là? Je suis une lectrice lente, moi. En plus, je préfère quand il y a des images. Et encore, j'ai même pas terminé tous les Tintins. Ça fait tellement longtemps que j'ai commencé Tintin au Congo que ça doit être redevenu la Belgique depuis le temps. Voilà, une petite blague sur les colonies pour réveiller mon Daniel.
Oui, oui.
Alors, David, vous étiez venu en fin d'année dernière pour nous raconter vos fantasmes. Je ne parle ni de l'émission ni du film. J'ai organisé une petite sauterie chez moi. Non, c'était pour le film, évidemment. Jamais j'organiserai une soirée chez moi pour que les gens me racontent leurs fantasmes, puisque
pourquoi
mon fantasme à moi, c'est d'être seul chez moi. Donc vous voyez, ça marche pas. 2022, j'arrête d'être sociable. C'est terminé. Jérémy Crédville est très sociable, mais regardez où ça l'a mené. Deux gosses, il a pas dormi depuis trois piges. Tout le monde est là. Oh là là, c'est chronique, c'est incroyable. Il chante trop bien, mais vous voyez pas qu'il a plus aucune conscience de ce qu'il fait. Enfin, David, vous revenez en ce début d'année avec un nouveau livre. Bah tiens, donc vous faites pas beaucoup d'efforts pour me surprendre, moi, je trouve. Ça y est, on s'est vu trois fois et vous n'essayez même plus de casser la routine, quoi. C'est trop vous demander de venir avec une actu qui change un peu, genre une médaille d'or en bobsleigh, par exemple. Je sais pas, mais soyez curieux. David Fuenquino se remporte la Transac Jacques Vabre. Ça, moi, ça me donnerait du grain à moudre. Voilà, Jacques Vabre. Bah ouais, avec ça, le Renaudot, il est dans son salon à lui, quoi. Donc bon, moi, la corruption dans le monde littéraire, de toute façon. Dans numéro 2, vous racontez l'histoire de l'autre. Parce que pour qu'il y ait les uns, faut qu'il y ait les autres. Et on les oublie souvent. On oublie surtout qu'on est toujours l'autre de quelqu'un. Moi, j'ai souvent été deuxième, suppléante du délégué de classe, remplaçante sur le banc au handball. En s'adressant à moi, les gens ont souvent commencé leur phrase par « Alors vraiment, vous étiez plus que deux, mais au choix, la production, le réalisateur, le directeur général, tes parents ont préféré choisir l'autre. » Attendez, mes parents, on n'est pas obligés. Il y a des familles avec plusieurs enfants, on n'est pas en Chine. Regardez Jérémy. David Fuenquino s'écrira peut-être un livre sur toi un jour. En attendant, va vider ta chambre, ton bus passe dans une heure. Non mais c'est vrai, on parle trop peu des médaillés d'argent de la vie quotidienne, mais en vrai, c'est super d'être deuxième, franchement. Remplaçant en sport, t'as pas les couvertures, mais t'as la petite briquette de jus de fruits à la fin du match alors que t'as pas joué. Délégué de classe, en vrai, le conseil de classe, c'est quand même des gens qui disent devant toi que tu fais pas d'efforts et que tu participes pas, merci bien, ça s'appelle le mariage. Et ne pas être le premier choix du réalisateur quand t'es comédienne. Moi, très souvent, un an après, j'ai vu le film en champagne. Oh la vache, soulagement. C'est tellement pas passé loin. Et décevoir tes parents, ça te rend quand même beaucoup plus libre dès le départ et ça te permet de te faire une belle bande de copains à la radio. Donc vive les numéros 2. Vive David Funkinos que s'il vient la prochaine fois avec une médaille d'argent ou de bronze au bobsleigh sera quand même accepté.
Merci. Ah, c'est promis, je vous
le vois. Et Morgane, on se retrouve vendredi, donc demain et samedi à Bordeaux, à la nouvelle comédie Galienne. Un spectacle.
Merci. Allez-y, c'est formidable. Et justement, vous êtes un peu un numéro 2. J'ai fait un clin d'œil à Stéphane.
Qui a fait le casting pour Harry Potter, qui a trouvé
Clémence
Poésie.
Oui, mon frère, effectivement. J'avais complètement oublié, même en écrivant le livre.
Mais
c'est
non.
Vrai que,
non.
Il a fait tellement de films à un moment donné, mais c'est vrai qu'il a travaillé sur le Harry Potter 4 quand il cherchait des acteurs français, notamment Clémence Poésie. Et donc, c'est un beau petit lien avec ce livre-là.
Et vous êtes le numéro 2, entre guillemets, dans la famille, dans la fratrie, puisque il est l'aîné, vous êtes le
Merci
numéro 2.
Merci de le rappeler, il est plus âgé que moi. Parce que les gens me disent, mais qui est l'aîné? Alors, au début, voilà, 6 ans d'écart, c'était flagrant, puis de moins en moins maintenant.
Non, mais ça se voit avec ses fringues déjà, ça se voit, il est largement plus
jeune. Je trouve que c'est criant.
Être le numéro 2, c'est aussi, c'est toucher, j'allais dire, le Graal ou les étoiles ou s'en approcher, c'est ce qu'il y a de pire que d'arriver 250e, comme le disait Leïla.
Au-delà d'être numéro 2, oui, c'est l'échec. L'échec qui est... Enfin, moi, je pourrais pas dire que ça soit pire, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a cette phrase de Churchill que j'adore, qui dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec ». Et j'aime bien l'idée qu'effectivement, on doit passer par ces étapes-là. Et mon livre raconte beaucoup ça.
Oui, mais sauf que lui ne va pas...
raconte beaucoup la construction
échec. Oui, mais lui ne va pas au-delà de cet échec. Il le subit.
Il va chercher, en tout cas, pendant tout le livre, à surmonter cet échec. Et ça... c'est plutôt plaisant parce qu'il y a plein de moments où il essaye de vivre sans Harry Potter et ça c'est impossible, il va se retrouver à travailler au Louvre en se disant que là vraiment il est à l'abri de
Là c'est le début de son sauvetage, j'ai envie de dire, d'aller au Louvre justement et de tomber dans le...
Ouais, exactement, là il va rencontrer tous les numéros 2 qui sont au Louvre, effectivement.
C'est génial,
l'armée
ça.
Des numéros 2 qui génial. Se terre au Louvre à travers les gardiens de musée.
Encore histoire vraie, pardon, celle des Beatles et de Pete Best, histoire vraie.
Oui, ça je raconte, effectivement.
Il est batteur, mais il est trop beau pour rester entre physiquement, les autres ne l'aiment pas parce que c'est le beau gosse, et donc...
Exactement, dans mon livre, je fais référence effectivement à l'histoire de Pete Best, parce que c'est très similaire. À la différence que Pete Best, tout le monde le connaissait comme batteur des Beatles. Il a été écarté 3 semaines avant le début de la gloire. Donc il y a une violence pour lui qui a traîné comme ça, ce boulet à Liverpool pendant des années, tout le monde le voyait. Était presque gêné parce que voilà, c'était celui qui aurait dû être parmi les Beatles.
Alors,
sauf que là, dans mon personnage,
c'est ce que je veux dire.
A failli être Harry Potter.
Pourquoi raconter l'histoire de Martin Hill et pas de Pete Best? Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a en plus dans cet univers Harry Potter? Le fait, parce que l'omniprésence de la marque Harry Potter et de la marque Beatles, elle est la même, mondialement connue et reconnue. La seule nuance est que Martin Hill peut se protéger en disant c'est un secret entre
mais ce que je trouvais incroyablement romanesque, c'est d'avoir en permanence d'être confronté à la vie de l'autre, au succès de l'autre, à avoir en permanence cette vie qu'il aurait pu avoir. Ça, je trouve ça incroyablement romanesque. Et lui, en fond, ce roman, c'est un roman d'initiation pour surmonter une telle épreuve, une telle blessure qu'on vit tous, de toute façon, à un moment donné ou à un autre de notre vie. Et justement, il va chercher toutes les étapes et il va trouver la solution. Il va trouver la solution parce qu'il va se rendre compte que ça a peut-être une valeur d'avoir été l'autre et qu'il y a peut-être il y a peut-être quelque chose de très fort qu'il a pu vivre à travers cette situation. Et moi, je trouve qu'on cherche tous notre chemin, d'une certaine manière, notre consolation, et il va la trouver.
Il y a la manière dont on peut vivre un échec soi-même, et il y a la manière dont l'échec est vécu par les autres. Ça déclenche des maladies chez certaines personnes, ça déclenche de la compassion chez d'autres, ça peut déclencher des harcèlements et des sales vannes chez d'autres personnes, parce que là aussi, c'est tout un pan du roman, c'est comment les autres vivent, ou se servent, ou subissent cet échec.
Pour moi, c'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois extrêmement effrayant quand on se dit voilà, quelqu'un qui passe si proche d'un tel destin, et en même temps c'est source aussi à une forme de légèreté et une comédie, c'est-à-dire que Harry Potter devient vraiment le sujet à ne pas aborder jamais avec lui. Donc il essaye de vivre, de passer à travers les gouttes d'Harry Potter. Donc dès qu'il est avec quelqu'un qui a un livre d'Harry Potter chez lui,
quand il drague, il va voir quels sont les livres dans la bibliothèque.
Effectivement,
après,
il va d'abord voir les livres.
Je trouve que c'est un bon réflexe de savoir ce que lisent les gens.
Ah, ça, c'est
avant
sûr.
D'entamer une relation amoureuse.
On devrait toujours aller voir.
On devrait toujours demander l'accès à la bibliothèque.
Mais là, il y a un dossier particulier. quand même.
Et sa mère ne passe plus le balai. Voilà, il y a plein de détails où effectivement, il évite au maximum d'avoir des liens avec.
Je pensais à ce que ça déclenchait son père. Malheureusement, physiquement, ils vont subir des conséquences. Ouais. Ce que ça déclenche, son beau-père, où là, ça devient du harcèlement. Il y a quand même tout un volet du livre qui est là-dessus, et où on retrouve d'ailleurs la solitude de l'enfant et du père dans Harry Potter, et le harcèlement, ou en tout cas l'agression ou la méchanceté de la part des autres.
Oui, complètement. Ça, c'est la deuxième partie du livre, effectivement, où je raconte qu'il est en train de glisser progressivement ce personnage dans l'idée qu'il est en train de devenir lui-même Harry Potter. Donc, il voit plein de signes autour de lui, il devient orphelin, il est effectivement maltraité. Ça, c'est un sujet qui est longuement abordé dans le livre, effectivement. Et puis surtout, il a un point faible énorme qui est cette fragilité par rapport à ce casting raté. Donc, c'est facile d'appuyer sur cette blessure-là.
Le casting est raté, le livre est réussi. David Fuenquinos, numéro 2.
Ouais, mais ça, sur le bon dos.
Tant que tu ne mets pas que c'est moi qui l'ai dit, oui. C'est chez Gallimard, le nouveau Fuenquinos. Voici la nouvelle, Florence Mendes.
Elle est le sexisme. C'est un univers en constante évolution. Hein. Dernière nouveauté dans la foire aux connards, le hogging. Cette pratique dénoncée par une étudiante américaine sur TikTok est en fait un pari sexuel entre copains, dont le but est de coucher avec la femme la plus grosse de la soirée. Chouette. Alors évidemment, ça pue la masculinité toxique. Hein, et moi-même, étant maman d'un petit garçon, je l'éduque de manière à ne pas en faire un futur connard. Et mission de service public oblige, je vous partage donc quelques conseils.
Allez.
Alors je sais, hein, moi qui me permet de parler d'éducation, c'est comme si Guillermo nous faisait une leçon de diction. Ça peut surprendre. Bon, je me souviens un jour, j'ai discuté avec un pédopsie qui m'a dit « Attention, il y a 5 grands traumatismes qu'il faut à tout prix éviter dans l'enfance, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Mais moi, si je devais écrire un bouquin 5 ressorts pour faire obéir votre enfant, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, ce serait le nom des chapitres. Bon. » Mais l'expression du sexisme chez les enfants passe d'abord par les vêtements. Alors il y a bien sûr la question de la couleur, hein, rose pour les filles, bleu pour les garçons, mais aussi celle des messages qui apparaissent par exemple sur les t-shirts. Râleuse, en retard, chieuse pour les filles, génial, aventurier, esprit libre pour les garçons. Alors quitte à faire dans le sexisme, autant y aller vraiment oppressif comme papa ou soumise comme maman. Ou sinon, on peut carrément être honnête et marquer sur les vêtements des enfants des messages comme la capote a craqué, on m'a fait pour les allocs ou on préfère ma sœur. Il faut également être attentif aux déguisements proposés aux enfants.
Alors,
souvent dans les catalogues de jouets, hein, les petites filles sont présentées en infirmière et les petits garçons en médecin. Pour faire la publicité d'une mini-cuisine, on voit souvent une petite fille vêtue d'un tablier, tandis que le petit garçon, lui, porte une toque de chef. Moi, j'ai hâte de voir la petite fille déguisée en femme de ménage avec à côté le petit garçon en peignoir de DSK. Bien sûr, la question de la gestion des émotions. Sois un homme, arrête de chouiner, tu pleures comme une fille. Tu pleures comme une fille, c'est-à-dire avec une bonne raison. Faut arrêter. Des mecs qui pleurent, il y en a plein, suffit d'aller voir au Parti Socialiste. Dernier point, et pas des moindres, l'éducation sexuelle. Parlez évidemment à vos garçons de l'importance du consentement. Et si vous voulez passer directement à la partie pratique, envoyez-les faire un stage à la chorale de la paroisse la plus proche. Il y a aussi la question de ce qu'on appelle la misère sexuelle. Hein. Aucun lien avec ma soirée d'hier ou d'avant-hier. Non, un homme ne doit pas multiplier les conquêtes pour prouver sa virilité. D'ailleurs, un homme, ça ne pense pas toujours au sexe. Pas de pression non plus sur la taille de ce dernier. On sait toutes que le plus important, Morgane, c'est le goût.
Mon Dieu.
Je vous ai manqué, hein, Leïla, je sens bien.
Oui, absolument, j'avais oublié.
Découplons virilité et performance. Être un homme, ce n'est pas forcément bander dur, haut et longtemps. On peut aussi penser à des petits exercices ludiques pour apprendre l'anatomie féminine dès le plus jeune âge. Hein, colorie le clitoris en bleu. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que cette masculinité toxique, elle a un coût. Supportée par chacun, chacune dans la société, elle engendre bien sûr les violences faites aux femmes, mais pas que. Le taux de suicide et d'incarcération est dramatiquement plus élevé chez les hommes, moins enclins à gérer leur frustration et à demander de l'aide psychologique. Et si vous êtes parent d'un garçon et que vous avez peur qu'en appliquant ces conseils, il devienne homosexuel, rassurez-vous. Il existe des thérapies qui vous permettront de changer tout ça et de devenir des gens bien. Voilà.
Merci, Florence.
Et Florence, ce soir, tu es à 21h30 au Métropole à Paris. Allez-y.
Belle salle.
Venez,
ouais.
venez.
Grave.
Il reste des places, il reste des places.
Justement, la vanne faite par Florence Mendez sur le Parti Socialiste, vous envoyez un SCAD.
Totalement. Non, mais c'est-à-dire qu'il cherche à un moment donné, mon personnage, à essayer de conjurer cet échec. Donc il cherche toutes les possibilités et il se renseigne grâce à sa compagne qui lui dit « Mais tu sais, il y a des grands colloques de participants, voilà, comme des réunions d'alcooliques anonymes, sauf que là ils parlent de leur échec. » Et c'est vrai que on a souvent l'idée des TED conférences où on parle de tout ce qui a été formidable dans notre vie, dans notre parcours, mais c'est important aussi de raconter ses échecs. Et donc ça, c'est un vrai truc qui s'est passé à Toulouse. En plus, la ville n'est pas choisie au hasard.
Ouais, c'est ça.
Toulouse, effectivement, ce sont les Falcons, ça vient des États-Unis, et donc il y a toutes sortes de losers qui viennent participer des artistes qui ont fait des bides, voilà, des membres du Parti Socialiste, c'est ce que je disais dans le
exactement.
Livre.
Exactement. Mais non, mais
et qui racontent leur échec au-delà de la
et
blague.
Et vous, c'est quoi votre grosse lose dans la vie?
Moi, c'est.
À part venir ici.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Non, incroyable. Pas comme ça, David.
Non, mais au-delà de l'aspect léger et risible, c'est vrai que je crois que c'est très important de raconter ce qu'on a raté aussi et de justement le partager. Et donc, il cherche finalement toutes les sortes de thérapies.
Vous n'avez pas répondu à la question de Lila.
Moi, c'est à chaque fois que je vois Daniel Morin, je me sens vraiment...
Vous pourriez être Daniel Morin.
Ah, j'aurais pu être Daniel Morin.
Ça,
ouais.
Donc ça va mieux maintenant.
Et donc, c'est une sorte de vraie thérapie de groupe. De l'échec.
Il n'a pas voulu répondre.
Non, voilà.
On va en parler après, peut-être.
Je crois que c'est une phrase de Nelson Mandela qui dit Je ne connais pas d'échec.
Soit je gagne, soit j'apprends. Ce caillou, il est vraiment dur.
C'était une autre citation.
On va parler avec Edwige Pasquet, directrice des éditions Gallimard Jeunesse, évidemment d'Harry Potter dans quelques instants.
Edwige en plus.
Oui, ça tombe bien. C'est la chouette. Hein.
C'est incroyable. Elle était prédestinée à publier J.K. Rowling. Oui.
On a dû tellement lui faire la pauvre cette vanne. Mais bon.
Je l'ai pas faite, moi.
Non, mais là, on vient d'en faire. On s'est mis à trois dessus sur la même vanne. David Fuenkinos publie chez Gallimard numéro 2. Et justement, en 95, vous écoutiez un morceau dont vous parlez dans le livre. C'est un concert de Cure que les parents de Martin Hill se rencontrent,
et quelle rencontre.
Effectivement, les parents de mon personnage se rencontrent à un concert de Cure. Et ça, c'était un petit clin d'œil, effectivement, à ma propre adolescence. J'étais un curiste absolu. J'étais habillé en noir. Le moindre rayon de soleil était à fuir.
Un vampire.
Voilà, exactement. J'ai eu ma période Cure. Et
semelles
c'est vrai
compensées
que... Pardon ?
Les grosses semelles, tout ça ?
Non, j'ai pas été jusque-là. Parce que ça, c'était plutôt là, ceux qui pogotaient, tout ça. Cure, c'était vraiment la dépression, surtout ne jamais sourire. C'était gothique, en fait, finalement.
Et on vous retrouve dans les années 95, dans une école de jazz. Donc on est sur un autre style
jazz.
Musical, voilà, c'est ça.
Ouais, tout à fait. Ouais.
La guitare, je crois que c'était vraiment une de vos passions. Vous travaillez quoi, plus de 3 heures par jour, votre instrument?
Oui, exactement. Moi, j'ai été pas forcément issu d'un milieu culturel, mais j'ai été gravement malade à 16 ans. Et après, je me suis mis à lire, à écrire, à aimer la musique. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai voulu être guitariste et musicien. Et puis bon, c'est peut-être pas plus mal.
Je me suis mis
à écrire finalement davantage que de pratiquer l'instrument.
Vous jouez quand même encore?
Oui, guitare. Ouais, j'étais même professeur de guitare. J'avais fait une sorte de truc à la Madoff, c'est-à-dire pyramidal. C'est-à-dire que chaque étudiant qui m'apportait un autre élève payait 10 francs de moins, en fait. Oui. Donc c'était 100 francs le cours. Et si on m'apportait 10 élèves...
C'est pas la Madoff, c'est honnête, c'est une promotion.
Oui, c'est vrai, oui. C'était une pyramide, effectivement.
Est-ce que quand vous évoquez cette maladie qui vous a cloué, qui vous a finalement permis aussi de vous découvrir, on peut parler aussi d'une forme d'échec, ou en tout cas, certains peuvent vivre une maladie comme une punition divine, et en disant donc je ne vais pas m'en sortir, j'abandonne tout, et vous, au contraire, vous en avez...
En tout cas, tous ceux qui ont été gravement malades et qui finalement sortent de cette épreuve-là sont armés d'une vitalité, d'une énergie, d'un rapport aux choses forcément différent. Moi, ça a débloqué sûrement la sensibilité et beaucoup de choses et le rapport sensible. C'est vrai que je me suis mis à ce moment-là à lire, alors que j'étais un adolescent qui détestait lire.
Et être un peu plus
avide. Je n'aimais pas du tout lire, à aimer la poésie. Non, pas forcément, mais en tout cas être et puis être plus joyeux aussi, être plus comment dire, avoir un rapport de satisfaction. Et c'est aussi, c'est pas un hasard finalement si tous mes livres parlent de ça. Même si je pensais qu'ils étaient très différents, que ce soit La Délicatesse, Charlotte, Le Mystère Henri Pic, j'avais l'impression d'explorer des univers très différents, mais ça parle tout le temps d'une reconstruction, l'idée d'avoir une épreuve et de la surmonter. Et effectivement, c'est exactement le sujet de numéro 2. C'est l'idée d'essayer de trouver aussi ce qui est positif dans l'échec et d'essayer de surmonter ça. Et ça, moi, je sais que je me sens, comment dire, armé d'avoir la chance d'une seconde vie et d'être dans cette énergie de la savourer.
Cure est présent dans votre roman numéro 2. Les Beatles aussi sont présents. Et à double titre, j'ai envie de dire, non seulement il y a l'anecdote de Pete Best, mais l'un de vos héros dans le livre s'appelle John. Vous avez choisi ce morceau pour correspondre à la bande originale de votre année 2001. Pourquoi ?
Bon, j'ai dit une année, mais en fait, John Lennon pourrait m'accompagner sur toutes les années.
C'est cool.
Que c'est vrai que j'ai écrit un livre sur lui il y a une dizaine d'années. Et, les Beatles m'accompagnent. Et d'ailleurs, je vous conseille tous de regarder le Get Back sur Disney+. Parce que, notamment, cette chanson de Jealous Guy, il commence à la jouer pendant les sessions de Let It Be. Et donc, qui sera après une de ses chansons solo.
Ouais.
Mais voilà, c'est quelqu'un qui me touche profondément par sa sensibilité, par l'idée que... D'ailleurs,
enfin,
c'est pas un hasard.
Il a quand même avoué avoir
été très violent
avec les femmes.
C'est la fragilité. C'était quelqu'un qui a été abandonné, doublement abandonné. Quand il a renoué avec sa mère,
et qu'il a perdu.
Elle est morte. Il y a quelque chose d'extrêmement douloureux et de touchant dans la vie de Lennon. Et finalement, c'est aussi très très proche, encore une fois, de c'est pas un hasard si j'étais aussi touché par lui, parce que c'est un destin qui cherche à s'apaiser en permanence. Et finalement, le dernier roman, numéro 2, c'est exactement la même chose.
On est en 2001, David, et c'est le début de votre aventure avec Gallimard. Ça remonte à 2001.
Ça fait 20 ans pile, mon premier roman,
Inversion.
La version de l'idiotie de l'influence de deux Polonais. vraiment, alors déjà que mon nom était compliqué et imprononçable, mais avec en plus ce titre-là, c'était très très mal barré. Quoi.
Ouais, et vous n'ont pas dit le titre, non David, on ne va pas faire ça. Vous dites dans les interviews que ça partait un peu dans tous les sens, que c'était un premier roman quoi, publié, que vous l'avez relu récemment ou pas ?
Non, et d'ailleurs je ne le conseille pas forcément. D'ailleurs, je suis toujours en discussion avec Folio qui veut le publier depuis des années, et je ne veux pas qu'il passe en poche. Mes deux premiers romans ne sont pas en poche. On peut les trouver si on a vraiment envie d'être kamikaze et de les lire. Mais non, parce que je me sens très éloigné, effectivement, de ces premiers livres.
Justement, retour à l'édition et à l'écriture avec vous, Edwige Pasquet. Pardon, mais en votre absence, on a fait des salvanes.
Bonjour.
C'était un lien avec Edwige et la chouette.
Non, mais attendez, c'est pire, parce que je m'appelle Edwige Pasquet, HP. Vous imaginez le mélange des dossiers hautes
HP, c'est pas hôpital psychiatrique. Non, d'accord. Ça, c'est une vanne qui est faite aussi dans votre livre sur le HP hôpital psychiatrique ou HP Harry Potter. Edwige, vous êtes directrice des éditions Gallimard Jeunesse.
Bonjour.
Comment ça va, Harry Potter?
Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va très bien.
Ça va très bien.
Mais c'est la bonne raison d'aller très bien.
Est-ce que oui non mais parce que il y a, comme l'a dit expliqué tout à l'heure David, cette qualité dans l'écriture et dans la à la fois le côté très fantastique, très aventurier, mais avec de véritables valeurs. C'est visiblement ce que voulait J.K. Rowling, évidemment, c'est de faire passer des valeurs au-delà de simplement une histoire fantastique.
Absolument, c'est un ensemble, ce roman d'Harry Potter, c'est tout à la fois, c'est un roman policier, un roman initiatique. Ça, il y a quelques points communs, effectivement. Un roman psychologique, un roman presque philosophique. On retrouve le bien, le mal, la mort. Un roman policier, j'allais dire, c'est tout un ensemble. Et elle a su écrire pour toutes les générations. C'est ça qui était extraordinaire. Les enfants l'ont lu, les parents se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Les enfants sont en train de dévorer ces livres. » Et effectivement... ils s'y sont donnés et passionnés.
Vous
et
les avez lus, les livres, les Harry Potter?
Lus et relus. Mais, si vous voulez, je pense que justement, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'à chaque fois que vous relisez, vous découvrez quelque chose de nouveau. Et alors, là où elle a un talent mais absolument incroyable, c'est dans l'imaginaire de ses personnages, des lieux, des animaux, des noms qu'elle a choisis. Parce qu'elle était influencée par toutes les légendes celtiques, nordiques, la mythologie, et même la politique. Et même la politique, on retrouve la Seconde Guerre mondiale.
Mais c'est vrai ce qui est dit dans le livre. En fait, elle a eu tous les personnages, elle a eu tous les romans, toutes les histoires en prenant
en faisant
ce voyage.
Oui, elle a dit en interview qu'elle avait déjà la trame du 7 immédiatement.
Elle connaissait la fin du 7e.
Ouais, elle est aussi très attentive à non seulement aux valeurs, mais elle voulait que ce soit que des Anglais qui jouent dans le film, qui réalisent. Et quand elle a Chris Columbus devant elle, elle se dit c'est un
Spielberg.
Elle refuse Spielberg parce qu'américain.
Ça c'est moi qui rajoute que Columbus c'était vraiment un nom prédestiné pour diriger Harry Potter.
Mais quand même.
Mais en tout cas, refuse Spielberg parce que Spielberg pense au jeune acteur du Sixième Sens. Et donc elle est vraiment
américain.
Alors qu'au début, vraiment, en plus c'est le début du conte de fées, elle aurait pu être émerveillée par tout ce qu'on lui proposait, mais elle était intransigeante là-dessus. Il fallait que le film soit anglais avec des acteurs anglais.
En termes, mais pour bien comprendre le phénomène Harry Potter, si toutefois un extraterrestre nous écoute et se dit qu'est-ce qui se passe, en termes de vente dans le monde, qu'est-ce que ça représente ?
Ah ben c'est plus de 500 millions d'exemplaires.
Et en France ?
En France, c'est à Noël, nous avons dépassé les 37 millions d'exemplaires en langue française dans le monde, en fait.
C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur Harry Potter, parce que Gallimard, ils m'ont dit, est-ce que tu peux donner un petit coup de main
C'est ça. Une petite visibilité à une autrice qui...
Vous estimez être un produit dérivé, c'est que je comprends pas très bien. Là,
mais c'est hyper sexy d'être un produit dérivé.
Est-ce qu'il y a une limite soit on dit business Harry Potter, mais il y a un côté péjoratif si je dis ça, mais est-ce qu'il y a une limite à cette formidable histoire Harry Potter ? Est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrête ?
Écoutez, personne n'a imaginé ce succès à l'origine. Voilà. Le bouche à oreille dans les écoles qui a fait que les trois premiers volumes se sont fait connaître. Et le succès, le réel, est arrivé au bout du quatrième volume. D'ailleurs, les trois premiers volumes sont parus en livre de poche. Ouais, le grand format n'existait pas à l'époque pour la jeunesse. Donc, à chaque fois, nous allons de surprise en surprise. J'imagine que là, quand on voit la progression constante d'Harry Potter et l'intérêt pour toutes les générations, même les parents qui veulent transmettre à leurs enfants, qui veulent transmettre tout ce qu'ils ont connu en lisant Harry Potter quand ils étaient jeunes, ils veulent le partager avec leurs enfants, donc si vous voulez, et les enfants adhèrent à Harry Potter.
Malgré les polémiques qui ont été vaines,
moi je pense que... un autre discours, J.K. Rowling a vraiment, c'est important de défendre sa liberté de penser et en l'occurrence, dans son œuvre, il n'y a absolument rien qui
porte
se rapproche de la polémique. Voilà.
Polémique autour de la transphobie, c'est ça,
c'est
en fait, pour dire les choses
clairement. C'est ça. Est-ce que les projets et quels sont vos rapports finalement entre vous, éditeur en France, éditrice en France de J.K. Rowling et elle, est-ce que vous avez d'abord des rapports avec elle ou c'est simplement un contrat de traduction et de publication, point ?
Non, alors, nous avons des rapports indirectement avec elle puisqu'elle a un agent qui est Neil Blair, qui la représente, et qui effectivement est son porte-parole, quelque part. Donc nous avons d'excellents rapports avec Neil Blair. C'est un travail de longue haleine, j'allais dire, un travail régulier, un travail de confiance. Je crois qu'il est très important pour que un livre soit complètement abouti, qu'il y ait une relation de confiance entre l'auteur et l'éditeur. Voilà.
Oui, et puis il faut rappeler que Gallimard a acquis les droits avant le succès mondial et colossal.
Avant qu'il soit publié. Ouais. Avant, nous l'avons acheté sur des feuilles volantes. C'était un manuscrit à l'époque.
Donc ça rend ça une relation de confiance.
Oui, c'est ce que l'on ressent d'ailleurs, ce que vous expliquez dans le livre, y compris le producteur de cinéma qui était en contact avec elle. Il a eu le nez alors qu'il n'avait pas produit.
Et elle est reconnaissante parce qu'elle lui donne la priorité.
On est toujours touché par ceux qui croient en vous avant le succès, évidemment.
Voilà. Et il y a 12 éditeurs anglais qui l'ont refusé.
Oui, c'est ça.
Et ça a été accepté par une petite maison qui ne publiait pas à l'époque de littérature de jeunesse.
La rumeur, dites-moi tous les deux si c'est vrai, était que les éditeurs à l'époque ne voulaient publier qu'un des tomes et elle avait dit soit vous engagez sur
nouveau,
les trois.
Si vous voulez, c'était assez assez exceptionnel.
Est-ce que c'est vrai ou faux cette
tradition,
histoire de il faut les trois?
La tradition, c'est une rumeur, qu'un auteur, quand il a la chance d'être publié, il va pas imposer en disant. Edwige vient de le rappeler, elle a été beaucoup refusée.
Et elle refuse quand même, elle refuse Spielberg, donc.
Oui, elle est après capable pour l'adaptation.
mais
je pense qu'elle a c'était extraordinaire.
Mais il y a une chose aussi, si vous voulez, c'est que pour un éditeur, c'est important de pouvoir lire un livre sur un manuscrit. Or là, nous avions les deux premiers manuscrits entre les mains. Mais comment imaginer ce qui se passait au 7e? Elle le savait. Oui. Elle était habitée par son personnage.
Et la suite, et qu'est-ce qu'elle va écrire? Est-ce qu'il y a une sortie prévue? Il y a une annonce à faire ou pas?
S'il y a une annonce
de J.K. Rowling.
Vous savez, les deux derniers romans qu'elle a publiés, enfin pour la jeunesse, c'est L'Ichabod l'année dernière, et cette année, Jacques et la grande aventure du cochon de Noël. Donc si vous voulez, elle s'est, là en l'occurrence, nous reconnaissons parfaitement Harry Potter, ses talents, J.K. Rowling, son talent, son œuvre, mais c'est très différent, effectivement, d'Harry Potter. Donc, il y a toujours des surprises, et c'est ça qui est merveilleux avec elle.
Et vous ne voulez en révéler aucune?
Parce que je suis incapable d'en révéler.
Il y a Jennifer Potter qui devrait arriver, c'est la cousine d'Harry Potter, un carton.
Il y a eu autant de films que de romans. Alors, non, il y a un décalage.
Il y a quand même, ce sont les 20 ans du premier film, là.
Oui, c'est incroyable. Il y a une émission actuellement sur Salto, d'ailleurs, effectivement, où on voit le casting se réunir.
Mais ce qu'il y a d'extraordinaire quand vous évoquez ça, si vous voulez, c'est que tout le monde sait que Harry Potter a fait beaucoup lire. Ça, il y a rien à dire là-dessus. Mais en fait, Harry Potter a fait beaucoup écrire. Il y a eu des fanfictions qui se sont développées à ce moment-là, qui n'existaient pas, qui étaient sur Internet. C'était très impressionnant.
J'en ai écrit certaines.
Et puis, il y a beaucoup d'auteurs qui ont été inspirés par Rowling. Et il y a toute une littérature pour les adolescents qui a repris et qui s'est beaucoup développée.
Dont David Fuenkinos. Et vous, on avait salué tout à l'heure le mérite et l'intelligence de Gallimard à soutenir le projet de David Fuenkinos malgré peut-être les interdits ou pas des...
Écoutez, moi je trouve que David a un grand talent, personne ne va le contester. Je suis personnellement une fan.
Et ça ne porte absolument, ce livre ne porte atteinte à aucune image.
Et en l'occurrence, David aborde un sujet qui est l'épreuve, effectivement, comme tu l'évoques, la reconstruction. Et Harry Potter aussi, c'est comme dans un conte de fées. Il naît orphelin, il a cette cicatrice.
Ce qui serait formidable, c'est que J.K. Rowling.
Il doit se reconstruire aussi.
Oui, c'est que J.K. Rowling lise votre livre et que vous preniez un café ensemble.
Rêve,
à la librairie Shakespeare.
Et puis on revient, à la bande originale ensemble.
Ouais. Merci beaucoup d'être passé par ce studio, Edwige Pasquet.
Merci de votre accueil.
Merci. Voici Jérémy Crédville.
Merci bien.
Hey. Et ambiance. Ah.
Grosse alliance.
Qu'est-ce qui se passe?
Passe le temps et de temps en temps, c'est le temps perdu.
Ouais, non, mais laisse tomber. Coupe la musique. Coupe. Et en régie, il lit sur les lèvres et j'ai mon masque, donc forcément. Non, mais les malentendants vous le diront, hein, lire sur les yeux, c'est compliqué, parce que si t'as un strabisme, tu passes pour quelqu'un qui articule mal. Ouais. J'aurais aimé continuer mes chroniques chantées en 2022, mais je suis obligé de porter le masque. J'aurais dit, mais même derrière un plexi?
Oui.
Mais même à 6 mètres des invités?
Oui.
Même avec 3 doses et un test PCR négatif de moins de 10 minutes?
Oui.
Et pourquoi? C'est le protocole! C'est le protocole. Protocole, il a bon dos, hein. Ma fille, elle a 3 ans, un cas Covid dans sa classe, et elle doit faire 3 tests en 4 jours. T'imagines, trois forages de nez pour une gamine de 3 ans. Les couvillons, il est plus grand que ma fille. Donc c'est tendu, quoi. Mais tu crois pas qu'ils vont associer cette sensation désagréable au fait d'aller en classe? Eh ben si, on est en train de chier sur notre avenir. Il y a de grandes chances, de toute façon, qu'il y ait un cas Covid par semaine dans sa classe, parce qu'à 3 ans, les gestes barrières, ils s'en tapent. Les barrières, ils les lèchent. Oui, elle a 2 ans, cette vanne. Oui,
Covid-19
en 2022. C'est fou, quand même, en 2022, de parler du Covid-19. Savez, moi, je vais prendre de l'avance. En exclusivité, je vais vous faire l'annonce du gouvernement pour le protocole sanitaire 2023.
Allez.
Ceci est une annonce gouvernementale concernant la Covid-19. Désormais, le port du masque est obligatoire dès 2 ans, en extérieur, en intérieur et en milieu aqueux. Celui-ci devra couvrir la bouche, le nez et le front. Pour les chauves, référez-vous à l'avant du sommet du crâne. Pour rappel, la burqa reste interdite. Pour la sécurité de tous, maintenez constamment une distance sociale de 6 mètres entre les personnes, même dans les transports en commun. Des taxibus sont mis à disposition afin de respecter cette nouvelle distanciation. Le port du plexiglas n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Concernant la vaccination, elle est désormais accessible aux fœtus. La 7e dose de rappel sera administrable dès la sortie du bâtiment dans lequel vous avez procédé à la 6e injection. Il est rappelé que le variant Pi est 4 fois plus contagieux que le variant Epsilon, lui-même 7 fois plus contagieux qu'Omicron. En juillet, nous passerons à l'alphabet russe. En entreprise, le télétravail est porté à 9 jours par semaine. 11 pour celles qui le peuvent. Pensez à bien vous aérer les mains et à laver les pièces toutes les heures pendant 10 minutes. La restauration en entreprise reste possible, mais en dehors des heures de travail. Les cas contacts vaccinés devront s'isoler pendant 13 minutes en faisant face à la fenêtre la plus proche. À défaut de fenêtre, placez-vous devant une collègue qui s'appelle Caro. Les non-vaccinés devront quant à eux s'isoler pendant 13 ans dans la Drôme. Ça, c'est ce qu'on appelle emmerder. Les cas contacts croisés aux toilettes seront appelés caca contact. Si un cas de Covid est détecté dans une classe, les élèves devront réaliser un test PCR avant la sonnerie. Ce test PCR sera effectué par le militaire qui remplace le personnel de cantine. Si celui-ci est en télétravail, appuyez sur la touche 2. Les discothèques sont fermées pour une durée de 3 semaines, depuis 56 semaines. La durée de prolongation de la fermeture sera communiquée dès leur réouverture. La danse est désormais strictement interdite. Les danseurs professionnels sont invités à envisager une reconversion professionnelle. Pour cela, consultez le portail dédié sur le site www.5678-pôle-emploi.fr. La consommation debout dans les restaurants et les bars reste interdite. Celle assise est soumise à une amende de 135 euros. Pour consommer en toute sécurité, allongez-vous. La présentation du pass sanitaire, une analyse d'urine et un test de vue de l'œil gauche seront nécessaires pour pouvoir accéder aux lieux dits « festifs ». Ceux-ci peuvent désormais ouvrir 2 heures plus tard que la semaine dernière, soit jusqu'à 16 heures. Enfin, la jauge dans les théâtres et cinémas est amenée à 12 personnes maximum. Cette jauge est également appelée « jauge Mendez ». Nous vous rappelons que toutes ces mesures ne sont pas politiques, mais sanitaires. C'est votre santé et celle de vos proches qui est en jeu. En revanche, toutes les mesures citées plus haut ne concernent pas les meetings politiques. Mesures sanitaires, on vous dit. Bonne année.
Joli, Jérémy Crémil.
Ce soir à 19h au Spotlight de Lille et à Marseille le 22 janvier.
Tanguy Pastureau, bonjour, oui. De quoi parles-tu aujourd'hui ?
Bonjour, je vais vous parler des chansons les plus jouées lors du dernier réveillon. J'ai la liste, c'est affreux, je quitte le pays.
Oh, il faut assumer pourtant. On est avec David Fuenquino jusqu'à midi.
Il y a même eu
c'est n'importe quoi. C'est la bande originale avec Morgane Cadignan, Florence Mendez, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, notre invité, Monsieur David Fuenquino. Pour ce numéro 2 qui raconte l'histoire forcément vraie, j'ai envie de dire, après ce qui se passe dans l'histoire, on le sait moins, mais l'histoire forcément vraie de celui qui n'est pas choisi, qui n'a pas été choisi pour le casting d'Harry Potter, comme on peut imaginer ce cas dans des situations autres du style des James Bond, où se retrouver peut-être présentant un journal de 20h à la télévision, sur une grande chaîne de télévision, c'est-à-dire des places qui sont rares, des opportunités, des occasions qui se présentent pas tous les jours, sauf que là, la grosse différence, David Fuenquino, c'est que celui qui n'est pas Harry Potter sera hanté par la présence d'Harry Potter, par le succès d'Harry Potter, par les parcs d'attractions, les livres, les affiches de films, les promotions, les émissions, c'est-à-dire...
La magie.
C'est pas juste un échec.
Sa vie, c'est « je ne suis pas Harry Potter ».
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Oui, là, c'est un échec atomique. Ouais. Évidemment, quand on est en finale comme ça, face à Daniel Radcliffe, et puis c'est une vraie histoire. Ils étaient vraiment, ils ont hésité entre les deux. Et donc, moi, j'étais obsédé par le destin de l'autre, de passer si proche d'une telle vie. Mais au-delà de ça, je pense que même si lui, c'est un cas extraordinaire,
c'était Jeff Bezos.
Je pense que c'est, je pense que c'est aussi un roman sur l'échec et comment se reconstruire après un tel ratage.
Est-ce qu'on peut imaginer aussi l'inverse, c'est-à-dire le numéro 1 qui se dit pourquoi moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai ce petit truc en plus qui est indéfini et indéfinissable finalement, et un sentiment de culpabilité que comme peuvent avoir les rescapés après un crash aérien en se disant je suis le seul survivant, plutôt que d'être heureux d'être le seul survivant, de culpabiliser et de se dire mais...
Ah mais ça je suis totalement d'accord, je pense qu'on peut être encombré par cette position là aussi, et que c'est ce que je raconte sans trop dévoiler un peu plus tard dans mon livre,
c'est ce que j'ai essayé d'éviter, cher ami.
Que Daniel Radcliffe, et puis on le sait, c'est une autorité publique, il y a plein de moments où il a même parlé de son rapport à l'alcool.
Ouais.
Voilà, c'est lui qui l'a dit. Il a dû rêver à un moment donné d'être un adolescent lambda et de ne pas être embarqué dans cette décennie complètement folle où il ne peut rien faire, il n'est pas libre, il passe des heures au maquillage chaque jour. Donc ça paraît effectivement extraordinaire, mais le quotidien peut être compliqué et puis il peut pas se promener dans la rue.
Et puis problème d'alcool, on l'a dit, consommation un peu abusive à des moments où il se sentait un petit peu perdu. Et puis il y a aussi quand même un événement sur le tournage de la saga, c'est la mort. Le handicap hyper important de ce garçon qui le doublait sur des scènes d'action, qui est tétraplégique, je crois.
Oui, ça c'est terrible, c'est une histoire terrible. Ouais. C'est vrai que que je raconte beaucoup de choses dans mon livre autour de l'histoire de J.K. Rowling, du casting, et notamment cette anecdote, effectivement, où celui qui l'entraînait pour les cascades, sur une répétition, effectivement, s'est blessé d'une manière tragique, et il est en fauteuil roulant.
À 25 ans.
Voilà, ouais. Bien sûr. Et puis, c'est aussi un lien très, très fort que toutes ces personnes avaient. Forcément, son répétiteur, c'est quelqu'un avec qui il était tout le temps, qui était sa doublure, d'une certaine manière. Il y a quelque chose d'extrêmement douloureux dans cette histoire.
Vous croyez au destin? Vous croyez au hasard? Vous croyez au rendez-vous de la vie?
J'y crois vraiment profondément, et c'est vrai que je crois que c'est le sujet principal pratiquement du livre. Je reviens tout le temps sur l'histoire du destin, du hasard, l'idée que finalement ce personnage, ce jeune acteur a été choisi malgré lui par les rencontres de la vie, et puis évidemment Daniel Radcliffe qui lui a été choisi alors que ses parents voulaient pas qu'il fasse le rôle. Voilà, une rencontre au théâtre avec le producteur du film. Il y a énormément de faits dans la vie qui font que ça bascule d'un côté ou de l'autre.
C'est absolument même par la démission de Rose de la babysitter, quoi. C'est-à-dire
oui,
que
voilà,
c'est,
effectivement,
si on veut...
il y a beaucoup de faits dans cette histoire.
C'est l'effet papillon.
Mais tout, ouais. Mais même voilà, on racontait tout à l'heure le destin de J.K. Rowling. On voit bien à quel point s'il n'y a pas un destin qui se met en marche à ce moment-là, c'est vrai que l'histoire ne peut pas être possible. Le nombre de détails qui font que elle a été propulsée vers le succès. Mais voilà, pour plein de personnes, c'est le contraire. Il y a plein de détails qui font que ça marche jamais, qu'on dérape, qu'on n'arrive jamais à réussir les choses.
C'est un livre passionnant, que l'on aime ou pas Harry Potter d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus...
Qu'on aime ou pas David Finkenhorst.
Qu'on aime ou pas la littérature.
Bien, oui, qu'on aime ou pas lire.
Qu'on sache lire ou pas.
Oui, même. C'est ça.
Voilà, mais effectivement, moi je ne connaissais pas si bien que ça. Même assez peu, j'avais vu les films avec mon fils. Mais après, voilà, j'ai découvert son histoire incroyable, l'histoire de J.K. Rowling et du casting. Mais après, c'est effectivement, ça parle d'un échec.
Si on ne connaît pas la saga Harry Potter, il n'y a pas de code ou de deuxième lecture.
On en a entendu parler quand même, donc ça va, on peut comprendre.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que même si on n'est pas fan d'Harry Potter, on peut se plonger dans ce
roman.
Non,
moi je connaissais même assez peu de choses, à vrai dire.
Et ben, vous en connaîtrez plus si vous ne connaissez pas grand chose d'Harry Potter en découvrant numéro 2, le nouveau roman de David Fuenkinos. Voici Monsieur Tanguy Bosto.
Oh,
c'est lui, là. C'est l'homme masqué.
J'ai pris connaissance du top 10 des chansons les plus diffusées au réveillon et donc je demande à être déchu de ma nationalité française. Ma valise est bouclée, j'ai fait 4 tests PCR, 3 antigéniques, j'ai les narines tellement dilatées qu'en 83, Michel Leb aurait pu m'inclure dans un de ses sketchs. Jean-Baptiste Djebari, qui porte le nom de ce que les gens disent quand ils ont vu un sketch des Baudins et qui sont enrhumés. Le ministre des Transports a dit qu'il fallait manger très rapidement dans le train. Je me suis entraîné, j'arrive à avaler un suédois en 27 secondes. Pas le mec, le sandwich. Je ne suis pas à mon délire. Je suis prêt. Je quitte la France, comme avant moi, Michel Polnareff, les cheveux de Michel Polnareff, Nabila, Manuel Valls, Ariel Dombal, dont l'enveloppe corporelle reste en France, mais dont l'esprit est là-haut, perdu parmi les étoiles, à jamais. J'ai un ami psychiatre qui m'a dit, je cite, ça c'est impossible à ravoir. Oui, je te quitte, peuple infâme, car tu m'as déçu. À côté de toi, même les Portugais sont des gens de goût. Deezer, la plateforme de streaming, a révélé avant-hier quel titre tu as le plus écouté entre 23h55 le 31 décembre et 0h15 le 1er janvier. Numéro 1, il s'agit de la chanson La Kiffe du rappeur marseillais Naps, chanson affligeante, j'ai mal à mon bécherel, je vous lis le refrain, c'est la kiffance que je dépense, gros joint devant la défense. Donc incitation à la consommation de stupéfiants, je te foutrai tout ça en tôle déjà, hein, à la défense, ce qui est logique parce que c'est un immense espace vide avec des gratte-ciels, si tu te tapes contre la tour totale c'est que vraiment tu es défoncé, parce que normalement tu la vois. Hein. Chanson numéro 2 sur Deezer, c'est Pepas de Farruko, un chanteur portoricain dont les clips sont truffés de filles qui convulsent uniquement des fesses. Alors c'est stupéfiant, elles sont capables de bouger du cul sans que le reste vienne avec. Cette partie de leur corps est tellement indépendante qu'on lui attribue un nom de pays. Il y a la Moldavie, la Pologne, le Libéria et le boule de Jocelyne. Enfin, titre numéro 3, c'est Bande organisée du collectif 13 organisés, encore des Marseillais. Ces gens ont fait beaucoup de mal à la France. Déjà Patrick Bosso à l'époque, j'étais pas pour. Par contre, les paroles sont sympas, je cite, je suis dans le game en claquette survette, je fuck les folles qui parlent de moi sur le net, nique ta mère sur la canne bière, nique tes morts sur le vieux port. Alors attention, Nick, t'es mort. Tout dépend du moment du décès. Hein, passer 3 jours, mon conseil est de plutôt tenter une relation de ce genre avec un vivant. Hein, ou avec Jean-Yves Le Drian qui est entre les deux. Alors attention, ont aussi été diffusés des titres pour boomers. Hein. Le français n'est pas qu'un jeune défoncé en survêt qui rêve de faire pili-pili aux cadavres et aux mamans. Deezer révèle qu'ont été jouées les chansons Je t'emmène au vent de Louise Attac, hein, qui raconte un été en Bretagne, mais aussi Partenaire particulier, deux partenaires particuliers, le groupe qui a inventé le copier-coller. Et enfin, J'irai où tu iras de Goldman et Céline Dion. Alors à titre personnel, moi si un jour Céline Dion me dit j'irai où tu iras, pour peu qu'on soit être tard, je dis ok viens et je saute de la falaise. Hein, ce sera ma contribution à la beauté du monde. Ensuite Spotify a aussi révélé ses titres les plus écoutés lors du réveillon. Alors il y a du Indochine, vous voyez Indochine, hein, c'est ce groupe qui a fait un concert test le 8 juillet de 4000 personnes. La conclusion avait été qu'il n'y avait pas eu plus de contamination qu'ailleurs, ce qui a abouti il y a 15 jours à l'instauration d'une jauge de 2000 personnes. À mon avis Castex a fait un bac littéraire parce qu'en calcul, il est nul. Le Balto, quand il prend son café, se donne 50 euros à la patronne et qu'il lui en rend deux, il dit merci, bonne journée, et il se barre. La chanson d'Indochine sur laquelle les Français ont secoué leur carcasse Covidée, c'est L'Aventurier, bien sûr, hein, cette chanson très gênante, où si on coupe d'un coup le son, on entend sa mère qui crie hein, en dansant avec les aisselles en sueur, et donc on finit par changer de nom de famille, avant de partir vendre des crêpes à Pattaya, sous le nom de Maznef, hein, qui a eu son moment de gloire, enfin surtout Kiki, son sexe. Allez, fin de la liste pour le réveillon très écouté, oui. Les démons de minuit d'Image, rue déserte, dernière cigarette, c'est en 86, aujourd'hui on dirait tout seul d'entier car je fume un gros pétard, et toute une série de chansons atroces, il y a Best Life de Naps, encore lui, c'est le grand gagnant du réveillon, hein, à égalité avec le couteau à huître. Alors les paroles de Best Life, ça fait je te connais par cœur, je sais que t'en veux encore, alors sur l'échelle du consentement dite de Nicolas Hulot qui va de 0 à 10, on est un peu à moins 2. Best Life est un titre en duo avec Gims, qui est l'un des rappeurs le plus joué pour le passage à la nouvelle année. Mais ça tombe mal, il a invité les musulmans, ses frérots, à ne plus la lui souhaiter. Ainsi, le pape François, catholique, lui envoie un texto avec des émojis feux d'artifice le 1er janvier. Il répond « Merci mec » sur la tête des Energy Music Awards, ça fait zizir. Hein, si c'est un musulman, l'autre se fait incendier tel une pinette dans le Var en août. Et le problème de Gims, mais c'est qu'il est comme moi. Il a dû avoir à l'avance le listing de ce que les Français allaient écouter pour le réveillon. Et il s'est dit « Mais en fait, je ne veux plus vivre avec ces gens. » Vous pouvez vous imaginer que certains sont quand même refilés le Covid sur 13 organisés. Enfin, si jamais ils y passent, on va dire quoi lors de l'éloge funèbre? Oui, il nous a quittés, Kevin, il est mort, c'est pourquoi ensemble nous allons le niquer sur le vieux port. Enfin, mais ça manque d'élégance. Enfin, bref, j'ai la flemme de quitter la France, donc je reste. Il n'y a qu'ici qu'on trouve du bris de mots à la truffe, hein, concrètement. Ouais. Mais désormais, chaque 31 décembre, je me barre avec Gims à Pattaya, on vendra des crêpes. Ouais, ta mère sur la canne de pierre, t'es mort sur le vieux port. Miamor, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Ta mère sur la canne de pierre, t'es mort sur le vieux port.
Merci, au revoir.
Et Tanguy, on se retrouve le 24 février au Corum, c'est à Montpellier.
Oui.
Bientôt à Marseille, j'espère.
Oui.
Numéro... sur le vieux port.
Numéro 2. Numéro 2, le nouveau roman, excellent roman de David Fuenquinos, qui démarre avec le casting. Même plus que ça, ça démarre même avant le casting pour trouver le personnage, le comédien qui allait jouer Harry Potter, puisque ça démarre par l'éditeur, la quête de J.K. Rowling, la création, la naissance d'Harry Potter. Et d'ailleurs, le parallèle se fait entre la vie personnelle de J.K. Rowling, entre l'histoire qu'elle raconte d'Harry Potter, le fait d'être orphelin et d'être battu, et ensuite ce qui va arriver à Martin Hill, c'est-à-dire qu'il va finalement se reproduire les mêmes histoires, les mêmes effets. Comment penser les plaies, c'est là aussi comment soigner finalement ce désarroi, c'est là aussi ce qu'on cherche à comprendre dans le livre.
Oui, exactement. Comment soigner ce ratage, terrible. Et c'est vrai que chacun cherche son propre chemin à la consolation. Et lui, il va mettre des années. Alors, il va passer par plein d'étapes, parfois risibles, parfois ridicules. Et puis finalement, en rencontrant une femme, il va être apaisé dans sa fragilité. Alors,
je voulais pas le dire, mais on peut quand même dire que c'est l'amour qui pense.
Je pense que c'est ce qui permet effectivement de se sentir finalement, comment dire, comblé d'une certaine manière. Parce que il est incomplet. Cet échec le rend incomplet et le rend surtout dans la projection, l'aigreur permanente de la vie de l'autre. Et finalement, avec le regard tendre qu'on pose sur lui, il va essayer de retrouver finalement du propre intérêt à son propre destin. Et donc c'est tout ce chemin-là de recomposition avec lui-même qui est celui de l'échec.
Et puis c'est un roman dans lequel évidemment on peut lire comme souvent les histoires en disant je suis que spectateur de l'histoire, mais aussi on peut en tirer des enseignements, des valeurs sur nos propres échecs, sur les propres rencontres dans la vie, les signes ou pas d'ailleurs de que nous envoie la vie.
Le hasard, le destin, ce qu'on rate et comment effectivement en tout cas il y a une valeur au ratage.
Clairement.
Ce qui est embêtant, c'est quand on n'a pas eu d'échec. Enfin, je pense à moi, par exemple, on a du mal à se projeter.
Attends encore une semaine. Oui. Numéro 2 chez Gallimard, c'est signé David.
Qu'est-ce qui se passe ?
Fuenquinos, comme ça, j'avais envie de le calmer.
Il y a des annonces.
D'autres événements culturels, Leïla.
On va parler de la particularité du tournage actuel de James Cameron.
Ah oui. Au fond de l'eau,
il
encore.
Est présent.
L'espace. Il va tourner quel film déjà, d'après vous, James Cameron?
C'est une histoire vraie?
C'est la suite de quelque
chose.
Avatar. Absolument, Avatar.
Et ça se fait dans la Nièvre?
Non, sauf que c'est pas encore la bonne réponse, mais c'est pas grave. Mais on n'était pas loin. Il tourne en effet Avatar, mais il y a une particularité.
Remets la nappe suspense. C'est pas encore la bonne réponse.
Dans le suspense.
Il y a une particularité sur ce tournage, d'après vous, de quoi il s'agit? C'est pas lié au sujet du film. C'est lié à des impératifs techniques.
Le Covid.
On voit pas qui est bleu.
Non, pas le Covid. C'est lié à des impératifs techniques et aussi financiers, finalement.
La 3D ?
Non.
Il n'y aura pas d'effets spéciaux ?
Il n'y aura qu'une caméra.
Il y aura des effets spéciaux, il y aura de la caméra.
Uniquement en fond vert ?
Non plus.
En
studio ? Non, en extérieur, l'inverse.
Non, il tourne à Francfort.
Ah, merde ! Ah, il parle allemand.
Non, mais vraiment, c'est pas encore ça.
Vous n'avez pas encore trouvé de faire venir l'équipe en Allemagne en
non,
avion.
Non.
On n'a pas trouvé.
Ah, en fait, il va tourner Avatar 2, 3 et 4 en même temps.
Ah ouais.
Ah putain.
Et voilà.
Quel foutage de
gueule. Ça a déjà été fait avec Retour vers le futur.
Il rassemble
absolument. Mais ça réduit les coûts.
Le 2 et le 3.
C'est vrai.
Ça réduit les coûts.
Il rassemble les plannings.
En télé, on fait ça depuis combien de temps?
Il s'est dit, je vais le faire un peu comme une série. Je vais le traiter économiquement de ce point de vue-là. Il rassemble tous les plannings, comme ça, les indisponibilités des acteurs, les trucs un peu compliqués. Hop, ça passe crème. Même chose, on économise pas mal d'argent. Alors, le seul problématique, c'est l'âge des comédiens.
Ils auront le même âge pendant.
C'est-à-dire que voilà.
On ne le voit pas dans
alors,
le film.
Alors, heureusement, dans le scénario, ils vont vieillir, en particulier dans l'histoire du 4. Donc, il s'est dit, j'attends un petit peu, je vais décaler. Donc, Avatar 2 va sortir en décembre 2022. Mmh. Avatar 3 devrait sortir en 2024 et Avatar 4 en 2026, parce que même si c'est tourné comme une série, ça va être quand même on va attendre le rythme du cinéma.
C'est malin en même temps.
Voilà. Est-ce que vous avez déjà...
Pourquoi à Francfort?
Je sais pas, c'est ce qui est indiqué.
Et pourquoi vous le dites sur ce ton-là, David?
Parce qu'il doit y avoir des studios, intéressants à Francfort.
Arrêtez de ostraciser comme ça.
J'adore l'Allemagne, il suffit de lire Ménif pour voir que j'adore l'Allemagne.
Vous avez mené plusieurs projets de front comme ça, bouquins, scénarios, films. Est-ce que vous êtes retrouvé comme ça dans une période intense?
Oui, j'ai
boulot.
Écrit mes 4 prochains romans en même temps. C'est un truc un peu particulier, c'est une question de budget.
Numéro 2, numéro 3, numéro 4.
Ouais,
c'est ça. C'est une autre manière de travailler, j'imagine,
non, mais
de
ça
faire à la fois.
J'ai arrivé de travailler, de finir un roman ou d'écrire un roman entre le moment où j'écris un scénario et que je vais tourner un film, entre deux projets ou du théâtre.
Ça change quoi dans la manière de travailler? De ne pas être sur une seule tâche.
En général, je suis quand même sur une tâche à la fois, mais pour moi, c'est que ce soit le théâtre, le cinéma ou la littérature, c'est vrai que c'est aussi c'est des énergies très différentes parce que la littérature ça reste extrêmement intime et personnel. On est seul avec son univers pendant des mois alors que les autres
Est-ce que vous avez besoin d'être dans un endroit précis pour écrire dans des conditions de travail?
J'aime bien les trains allemands, c'est pour ça que j'étais un peu j'étais un peu perturbé par
Francfort. C'est pas des bons souvenirs pour tout le monde les trains allemands.
Non mais j'aime bien travailler dans le train, effectivement. J'aime bien travailler dans le train, c'est quelque chose. Ça m'arrive parfois d'accepter des dédicaces dans le sud de la France, parce que je sais que j'ai 3 heures de train aller, 3 heures retour.
Ça, c'est un argument pour vous convaincre de vous déplacer.
Il faut bosser.
Exactement. Mais j'aime bien.
Et vous bossez sur un ordinateur?
Oui. Ouais. Donc ça, la plupart des écrivains, après, je prends des notes, j'ai des cahiers, comme ça, pour glaner des informations, mais sinon, oui, sur ordinateur.
Sur un siège, c'est plus confortable.
Autre question. On va parler de Billie Eilish. Elle vient de confesser que une addiction l'avait abîmée.
Le crack.
Le porno.
Ouais, absolument, absolument. Le porno. Elle a raconté qu'elle a commencé à regarder quand elle avait l'âge de 11 ans.
Ah ouais, là,
et quand elle a regardé, elle en regardait beaucoup parce que c'était assez facile.
Du coup, elle a cliqué sur oui. Avez-vous 18 ans?
Absolument,
plus
tu connais bien les sites, toi. Et elle a commencé à raconter comment c'est rentré dans une sorte de pratique quotidienne de regarder du porno et que ça l'avait d'une certaine façon abîmée parce que c'est la représentation du corps de la femme, que les gens pensent que la sexualité c'est ainsi. Et ma question, elle arrive. Après,
vous avez joué dans un porno, du porno, c'est ça?
Non, ma question arrive. Après les fantasmes, est-ce qu'il y a un projet porno peut-être bientôt?
Non, je crois qu'on a tout mis dans les fantasmes. On a été au max de ce qu'on pouvait faire.
Et est-ce que vous avez une addiction? Est-ce que vous avez une pratique comme ça addictive à quelque chose? Quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer?
La coke.
Non, ça, c'était une grande perte.
Ça, c'est un de tes regrets.
Là, je suis addict à Seinfeld, que je revois intégralement, oui. qui est mon hit absolu en termes de série. Et là, effectivement, Netflix a remis tous les Seinfeld.
Avec Kramer.
Donc, je suis avec Kramer. Non, mais avec
ça, c'est
gentil,
addiction.
C'est ça, c'est une réponse beaucoup trop.
C'est ma réponse. Je sniffe du Seinfeld, voilà.
Le je suis perfectionniste en entretien d'embauche, quoi.
Pour répéter la vanne dite par Florence Mendès tout à l'heure, après numéro 2, numéro 3, numéro 4, est-ce que vous êtes déjà sur la tête dans le projet suivant?
Non, j'ai aucun projet pour le moment.
Mais non, c'est pas possible. C'est pas crédible.
Ah bah si, c'est crédible. J'ai
ni de pièces de théâtre, non. Ni de films, ni de livres.
Non, je fais tout pour faire une pause, donc j'essaie de pas trouver d'idées. Pour l'instant, j'ai pas de projet, non.
D'accord. Numéro 2.
Si vous en avez un, je suis preneur. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer des idées.
Hein. Ah, j'ai un truc à vous proposer. Ok, hors antenne. Numéro 2 chez
Gali. Ça s'appelle The Writer. C'est une émission avec des écrivains qui créent en direct.
Numéro 2, c'est le nouveau très bon roman de David Franquino chez Gallimard. Des excuses à présenter, Daniel Morin. Ah,
oui, absolument. Oui. Désolé pour Jérôme Garcin et l'équipe critique du Masque et la Plume. Ils sont venus me voir à la pause pour me demander en panique ce que c'était que ces livres Harry Potter machin. Alors les gars, comment vous dire, Harry Potter, comme vous dites, c'est un gamin qui a une cicatrice qui se déplace en balai, donc c'est pas dingue, hein, vous n'avez pas raté grand chose. Désolé pour Stéphane Fuenquinos, le frère du numéro 1 de la famille Fuenquinos, qui a été décrié, moqué, insulté, tambouriné par David et Nagui. Mais le prenez pas mal, Stéphane, on vous aime, on aime les perdants, oui. On est de gauche, bordel. Désolé pour les auditeurs historiques de France Inter qui ont cru que David Fuenquinos parlait d'eux quand il a décrit des gens au visage pâle, fuyant le soleil, la joie et plongeant dans la dépression. Alors, c'est aussi la touche France Inter, mais il parlait de lui en mode ado gothique. En même temps, la joie, c'est tellement ringard, tellement années 70, tellement de droite, tellement pas nous, quoi. Désolé enfin pour Tanguy Pastureau qui visiblement n'y comprend rien à la bonne musique. Allez, deuxième chance, écoute ce mélange de joie et de poésie.
C'est la défense, alors, que je dépense, conjoint devant la défense.
Il dandine un peu.
Tellement France Inter.
Alors, deuxième écoute, hein, comme dirait Leïla. Ça passe crème, non?
Merci David Fuenquinos.
Merci
mille fois et surtout bravo. C'est une réussite ce numéro 2. J'encourage vraiment tout le monde à le lire parce que, au-delà d'être un bon roman et de raconter peut-être quelques secrets de fabrication d'Harry Potter, c'est aussi un roman avec beaucoup de valeur dans la vie que je qualifierais presque de roman utile.
Et puis c'est drôle.
À lire. Ouais.
Et puis c'est drôle.
Moi j'ai lu mon roman 2022, ça y est.
Gallimard,
c'est
déjà.
C'est fait.
Chez Gallimard, David Fuenquinos, numéro 2. Demain, Thierry Godard et Sophie Guillemin seront nos invités. Passez une bonne journée. Voici les carnets de campagne.
À demain.